Tout pour investir. Investir autrement.
On s'occupe de votre culture financière, mais aussi de votre culture, eh bien, tout court, avec la maison Christie's pour finir l'émission. Bonjour, Cécile Verdier.
Bonjour, Lorraine.
Vous êtes présidente de Christie's France, vous êtes commissaire-priseur aussi dans votre quotidien. Vous êtes avec nous pour prendre le pouls du marché de l'art, dire à nos auditeurs, téléspectateurs, comment se porte ce marché particulier et que dit-il non seulement de notre économie, mais aussi de nous, collectionneurs, investisseurs, ou comme j'aime bien dire, wannabe collectionneurs. Comment va l'art en France aujourd'hui ?
L'art va plutôt bien. L'art ne va pas si mal. Je dis pas si mal parce qu'on entend beaucoup de commentateurs dire que les marchés sont plus difficiles, mais le marché de la vente aux enchères publiques, qui est le mien, se porte plutôt très bien. Au premier semestre, on aura vendu pour plus de 200 millions d'euros chez Christie's, alors que l'année dernière, on était à 114. Donc, le marché se porte bien, avec moins d'objets aussi. Donc, non seulement nous avons vendu beaucoup d'objets, mais en plus à des très bons niveaux de prix. Le marché se porte bien dans cet environnement incertain à tout point de vue. Il est vu probablement comme une forme de valeur refuge, de valeur plaisir. Et puis, comme beaucoup de vendeurs sont hésitants à vendre, finalement, la rareté paye. Donc, quand une belle œuvre arrive sur le marché, elle fait un très gros prix, à l'image d'un tableau de Chardin qu'on a vendu très récemment au mois de juin dernier.
Absolument, votre équipe était venue juste avant la vente. D'ailleurs, nous faire monter un petit peu la sauce, si je puis dire. Vous nous dites, voilà, un marché qui se porte pas si mal. On va se projeter un peu dans les prochains mois, évidemment. Mais quels sont les sous-jacents de cette santé ? D'où viennent vos investisseurs, vos enchéreurs ? Et on comprend moins d'objets vendus, moins de pièces vendues, mais à des plus hautes valorisations. Qu'est-ce qui explique cette mutation du marché ?
Donc, moins d'objets, puisqu'effectivement les vendeurs sont un peu inquiets, soucieux de se demander si c'est le moment de mettre sur le marché une œuvre leur appartenant. Du coup, ce qui arrive sur le marché vient souvent de collections, de successions, dans des ventes qui sont un petit peu obligatoires.
Un peu comme dans l'immobilier, en fait.
Voilà, exactement. Dans une famille où on doit séparer une collection, c'est le moment où on le fait. Sinon, c'est plus difficile de réunir les objets dans les ventes qu'on appelle à divers amateurs. Mais les collections, on en a eu beaucoup. C'est la moitié des ventes que nous avons eues au premier semestre, c'était des collections. Du coup, effectivement, quand les objets sont de qualité, qui n'ont pas été vu sur le marché, c'est-à-dire un objet qui appartient à la même famille ou à la même personne depuis 10, 20, 30 ans, il a acquis une forme de fraîcheur, donc c'est une originalité, à la différence d'un tableau qui serait passé tous les deux ans comme un objet purement spéculatif. Donc ça, c'est vraiment un des éléments importants. S'il est bien estimé, qu'il est frais sur le marché, qu'il est en bon état, qu'il n'a pas été restauré de façon excessive, et qu'il a appartenu à quelqu'un d'important, et ça, on va y revenir, on a tous les ingrédients pour que les objets, les prix soient très élevés.
Quelle est votre perspective ? Nous n'avons pas de boule de cristal. Mais comment vous anticipez les 6 prochains mois, à l'échelle de la France, si on peut zoomer sur notre marché à nous, à 6 mois là ?
Je peux dire à 15 jours. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas. On ne va pas raconter l'histoire, on ne sait pas. Ce qui est clair, c'est qu'il y a de l'argent dans le monde. Que ce que nous vendons chez Christie's est vendu, suivant les spécialités, à 60-70% à des clients qui ne sont pas résidents français ou qui ne sont pas français. Donc, on est sur un monde macro plutôt que micro, purement français. On est vraiment sur le monde entier. Notre marché est un marché mondial, même quand on vend uniquement à Paris. Est-ce que ça va impacter... Est-ce que les enjeux du monde en général vont pouvoir impacter le marché ? Ça peut arriver à partir du moment où on sent que le marché immobilier est plus difficile. Mais en fait, en ce moment, on sent plutôt que les marchés d'actions sont plutôt bons. Enfin, donc, cette espèce de up and down constant, finalement, les objets d'art apparaissent comme quelque chose d'assez linéaire. Donc, on est plutôt confiant. L'idée aussi, c'est qu'il y a beaucoup de rendez-vous dans le marché et surtout dans le monde des expositions, vous allez parler du surréalisme, qui vont être autant de temps forts pour redécouvrir des moments d'histoire de l'art et qui, du coup, vont permettre aussi de redécouvrir dans le marché ces moments de l'histoire de l'art.
Dans une autre séquence avec Christian Fontaine, le directeur délégué de la rédaction du Revenu, nous parlions des placements rassurants. On parlait de placements réels, de placements tangibles, de montres, mais aussi de vins ou encore d'investissements dans les forêts. Est-ce que l'art rentre dans cette catégorie de ces tangibles ? Vous parliez de l'importance de l'origine des biens qui passent aux enchères. Est-ce que tout ça participe à construire des choses que les investisseurs ou les wannabe investisseurs trouvent très réelles, très tangibles ?
En fait, fondamentalement, il y a deux mouvements, si vous voulez, qui expliquent ce succès. Le premier, c'est effectivement l'idée que dans un monde difficile comme celui dans lequel nous vivons, l'art est un échappatoire. C'est une façon d'embellir la vie tous les jours, de se parler de son quotidien, d'être dans dans sa vie quotidienne et non pas de forcément se projeter à long terme. Donc on a envie de se faire plaisir et on peut, dans le marché de l'art, à partir de 3-4 000 euros, se faire plaisir. Donc ça, c'est la première chose. Ça explique cette résilience du marché. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'art est vu comme une diversification d'actifs. Mm-hmm. Je vous rappelle que les objets d'art ne sont pas imposés en France, comme dans beaucoup de pays encore. Donc c'est un moyen aussi de pouvoir diversifier son patrimoine en faisant quelques achats qui apparaissent comme des valeurs sûres. Ça ne doit pas être vu comme des achats spéculatifs, oui, mais comme des achats de plaisir, des choses qui avant tout doivent vous faire plaisir, mais que vous inscrivez dans un patrimoine global, qu'il s'agisse de tableaux ou d'objets. Après, il y a des tendances, il y a des choses aussi qui sont, je ne dirais pas à la mode, mais qui ont été souvent sous-exploitées ou sous-estimées et qui sont vraiment, qui continuent à avoir beaucoup pour nous de sous-achats de progression importants.
Exemple.
Le premier, les femmes. Et quelle que soit la catégorie, qu'il s'agisse de tableaux modernes, de design, de tableaux anciens, de bijoux, de tout ce qui est une œuvre.
On parlait de Suzanne Belperron la semaine dernière dans l'émission.
Alors voilà, Suzanne Belperron l'autre jour. Françoise Gillot, qui a été une des compagnes de Picasso, c'est un tableau qu'on a vendu au printemps, qui devait être estimé 200-300 000 euros, qui a fait 1,4 million. Françoise Gillot, il y a 10 ans, personne ne regardait les œuvres de Françoise Gillot. Elle était vue comme une espèce de à côté de Picasso. Et elle est bien plus que ça. Le marché est en train de le révéler. Toyen, on parle du surréaliste, c'est une femme. On vendront plusieurs pièces en septembre. Une artiste qui a été redécouverte, je dirais, par le marché il y a 5-6 ans. On n'en parlait pas avant. Dans le design, vous avez Charlotte Perriand, qui est très connue depuis longtemps, artiste des années 50, pour lequel il y a une profondeur de marché, parce qu'elle a beaucoup créé. Il y a des œuvres à 2000 euros et des œuvres à 500 000 euros. Donc on peut acheter une pièce estampillée de ce nom de cette femme, qui était vraiment une des grandes designeuses du XXe siècle pour des gammes de prix très larges. Dans toutes les catégories du marché, tableaux anciens, bien sûr, évidemment, aussi, c'est le cas. Et donc, voilà, vous avez une diversification qui vous permet d'acheter. Il y a vraiment les femmes, c'est une des tendances fortes.
Les femmes, une tendance forte que votre équipe a pu nous révéler, participer à révéler au cours des derniers mois dans l'émission. Un mot, quand même, d'un anniversaire qui mérite qu'on s'arrête dessus. Ce sont les 100 ans du surréalisme. Oui. Comment se porte le marché du surréalisme en France ?
Surréalisme, c'est une spécialité qui n'est pas française uniquement, parce qu'on parle beaucoup du surréalisme belge notamment, mais c'est un domaine qui a toujours beaucoup, beaucoup plu en France. Probablement pour ce mélange de quelque chose de très libre, création débridée, qui paraît loufoque. Et puis aussi, il y a un côté aussi, il y avait un point de vue, si je veux dire, que le manifeste du surréalisme, c'était véritablement un point de vue à définir que, voilà, qu'on a le droit de s'affranchir de beaucoup de barrières, et cette liberté fait probablement partie aussi de l'ADN français. Donc ce côté complètement iconoclaste, libre, a toujours eu un grand succès en France, et le surréalisme est né en France, mais si on en a beaucoup de mouvements, et on fait beaucoup d'interventions dans beaucoup de pays différents.
Aujourd'hui, vous savez, on est très mercantile dans l'émission, puisqu'on parle d'investissement.
Allons-y.
Des experts, notamment des maisons. Si j'ai 10 000 euros aujourd'hui, dans quoi j'investis ?
Alors d'abord, avec 10 000 euros, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et même chez Christie's, je tiens à le préciser, parce que si le prix moyen chez nous, il doit être autour de 70 000 euros, avec 10 000 euros, on peut acheter beaucoup de choses. Je vous parle des femmes, je vous parle des objets qui ont une provenance, qui ont appartenu à quelqu'un. Le marché valorise beaucoup l'histoire des objets. Derrière l'objet, c'est le regard, ça peut être celui d'Elton John, dont on a vendu une collection il n'y a pas si longtemps, Vivienne Westwood, encore récemment à Londres. Mais le fait qu'il y ait une personne, Hubert de Givenchy, comme on l'avait fait en 2022, le fait qu'une personne qui est réputée pour son goût, son œil, son originalité, ait posé son regard sur une œuvre, ça lui donne de la valeur. Donc acheter une œuvre avec ce qu'on appellerait un pédigré, c'est toujours un plus. Et pour 10 000 euros, on peut acheter un premier bijou dans une vente aux enchères, une petite œuvre de Lalanne dans une vente aux enchères, un dessin ancien, une œuvre sur papier. En général, les œuvres sur papier de grande qualité, pour 2-3 000 euros, vous avez un très beau dessin ancien. Vous avez de la photographie à moins de 10 000 euros. L'important, c'est véritablement pour moi de garder toujours 4 critères. La fraîcheur, un objet qui n'a pas passé 10 fois sur le marché, à une bonne estimation, qui a appartenu à quelqu'un qui a une histoire, un pédigré, et puis qui est en bon état. C'est les 4 critères, mais une fois qu'on a respecté ces 4 critères, dans toutes les catégories du marché, on peut faire des bons achats.
Les bons conseils, la grille d'achat ou la grille d'envisagement, j'allais dire, de Cécile Verdier, la présidente de Christie's France. Dans Tout pour investir, vous avez entendu fraîcheur, juste estimation, pédigré, et puis évidemment état. On n'achète pas quelque chose en mauvais état, en tout cas.